Des transports en commun très perturbés et du monde, beaucoup de monde dans les rues pour protester contre le projet de réforme des retraites, c'est le dossier de ce journal. Partis de Gambie, ils espéraient rejoindre l'Espagne. Un bateau transportant quelques 150 exilés a heurté un rocher. Au moins 58 personnes se sont noyées au large de la Mauritanie. Nous évoquerons aussi la traque menée par les services de contre-espionnage français, suisse et britannique pour identifier une quinzaine d'espions russes qui auraient utilisé les Alpes françaises comme base arrière. Le gouvernement se dit déterminé, les opposants à la réforme des retraites aussi. Les grévistes sont nombreux à la SNCF, où plus d'un agent sur deux a cessé le travail, et même près de 86% des conducteurs, selon les chiffres de la direction. Dans la fonction publique d'État, le gouvernement recense plus d'un tiers de grévistes, chiffre largement sous-estimé selon la CGT. Beaucoup d'écoles étaient fermées, 51% de grévistes dans le primaire, plus de 42% dans le secondaire, selon le ministère de l'Éducation. Grève très suivie aussi chez EDF. Et 7 raffineries sur 8 sont bloquées. Dans les rues, des centaines de milliers de personnes. À Marseille, Bordeaux, Nantes, Clermont-Ferrand, à Rennes ou à Tours, forte mobilisation. D'après la CGT, entre 1,4 et 1,5 million de manifestants ont défilé contre le gouvernement. Contre le projet gouvernemental à travers la France. Et le cortège parisien, très dense, rassemblait, toujours selon le syndicat, 250 000 personnes. Parmi elles, Alexis Morel a rencontré des enseignants désabusés. Reportage.
Les enseignants présents et bien visibles dans ce cortège parisien. Parmi eux, Laura, prof au collège à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Gréviste aujourd'hui, malgré les promesses de son ministre, les pensions ne baisseront pas.
Mais parce qu'on ne le croit pas. Voilà pourquoi on est là. Parce que notre point d'indice est gelé depuis maintenant quasiment 10 ans. Que notre salaire n'augmente pas. La seule chose qui va peut-être augmenter, ce sont nos primes, mais nous sommes les catégories de fonctionnaires qui en a le moins.
Et en primaire, on n'en a pas.
Donc ça nous fait une belle jambe, ces promesses, mais on ne le croit pas.
Des profs qui ne croient pas leur ministre, rien d'étonnant à cela, selon Séverin, enseignant dans l'Essonne.
Non, il y a un petit problème de méthode dans la méthode Blanquer. Normalement, on fait l'inverse, on commence par augmenter les salaires et ensuite, éventuellement, on fait une réforme des retraites. La parole de Blanquer, depuis toutes les mobilisations qu'il y a, elle est complètement démonétisée. Ça fait 2 ans maintenant que Monsieur le ministre nous vend l'école de la confiance. Depuis toutes les lois qui ont été passées sur l'école de la confiance, on voit qu'en permanence, ça consiste à détruire nos statuts, à nous faire travailler plus longtemps, à nous mépriser en permanence. Et donc, non, on n'y croit absolument pas.
Alors, de nombreux profs ici ne veulent pas se limiter à un seul jour de grève, à l'image de Charlotte, enseignante au Plessis-Trévise en région parisienne.
On va essayer de peut-être reconduire demain, mais surtout d'essayer de faire des grèves alternées au sein de l'établissement. Ça vaut carrément le coup de partir en grève très très longtemps, étant donné que sinon on perd 900 euros par mois en période de retraite.
Et certains manifestants croisés l'assurent, s'il le faut, on tiendra jusqu'à Noël.
Alexis Morel, à Paris, demain encore, mieux vaudra circuler à vélo ou opter pour le télétravail. La grève se poursuivra à la SNCF. 90% des TGV et 70% des trains express régionaux seront à l'arrêt. La grève est reconduite jusqu'à lundi inclus à la RATP. Air France annonce de son côté l'annulation de 30% de ses vols intérieurs et de près de 10% de ses vols moyens courriers. La mobilisation est donc forte et elle semble devoir durer, Anne-Laure Jumet.
Oui, le gouvernement s'attend d'ailleurs à reconduire pour lundi dit un plan de transport identique à celui d'aujourd'hui. Du côté du métro parisien, les syndicats de la RATP ont déjà annoncé la reconduite du mouvement jusqu'à lundi soir. Plus largement, ce que notent les organisations syndicales ce soir, c'est la forte mobilisation dans les cortèges des fonctionnaires et des agents qui bénéficient de régimes spéciaux, c'était attendu, mais aussi les salariés du privé. Si l'on ne dispose pas de chiffres concernant ces derniers, on a vu dans les manifestations des employés du secteur industriel, notamment automobile ou encore de la distribution. Et cette mobilisation, eh bien, les leaders syndicaux, notamment de la CGT et de Force ouvrière, veulent l'utiliser pour obtenir le retrait du régime par points. Nous venons de joindre Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Je lui ai demandé si le mouvement était parti pour durer.
Il durera ce que le gouvernement voudra qu'il dure. Encore une fois, c'est une mauvaise idée que ce régime unique par points. Et il faut qu'il comprenne que, contrairement à ce qu'il espérait, il ne reçoit pas l'assentiment très très loin s'en trouve de la population et des salariés en particulier. Donc il faut revenir à la table de négociation, au point de départ, sans préalable. Notre souhait, c'est d'être entendu au plus vite, évidemment.
Alors, une intersyndicale est prévue demain à 9h au siège de Force ouvrière pour arrêter les suites de la mobilisation. On devrait d'ailleurs retrouver autour de la table la CFE-CGC qui représente les cadres. Son président François Omeril était dans le cortège parisien tout à l'heure, ce qui est assez inhabituel pour cette confédération. Une nouvelle journée de manifestation n'est pas exclue mardi prochain, alors qu'Édouard Philippe ne devrait lui pas dévoiler les grands principes du projet de loi réformant les retraites avant le milieu de la semaine prochaine.
Anne-Laure Jumet, face aux revendications, le gouvernement faisait plutôt profil bas aujourd'hui, soulignant que la concertation n'était pas finie. Écoutez la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Nous respectons la mobilisation des Français. Nous entendons aussi le fait qu'il y ait des choses qui leur semblent aujourd'hui floues. Et en quelque sorte, c'est bien normal puisque les négociations ne sont à ce stade pas achevées et la réforme en tant que telle n'a pas été présentée. La porte du gouvernement est évidemment toujours ouverte aux négociations. Si nous avons des réunions multilatérales encore la semaine prochaine, c'est qu'il y a forcément des marges de négociation avec les organisations syndicales. Je pense qu'on ne va pas maintenant tout de suite s'embarquer dans qu'est-ce qu'on va faire pour les droits familiaux, pour l'incapacité permanente de travail ou tel sujet qui est à la fois un sujet technique mais un sujet évidemment important. Mais évidemment, si je vous dis que la porte du gouvernement est ouverte, c'est qu'elle est ouverte.
Dans beaucoup de villes, les manifestations se sont bien passées. Ce qu'a souligné Édouard Philippe, le Premier ministre a même rendu hommage aux organisations syndicales qui les ont encadrées. À Paris, en revanche, des incidents ont éclaté. Une remorque de chantier a été retournée et incendiée près de la Bourse du Travail. Plusieurs vitrines brisées. Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles et répliqué par des tirs de lacrymogènes. Boulevard Magenta, des militants radicaux Black Bloc ont été repoussés vers la place de la République par l'arrivée de brigades de la police nationale. À 17h, 57 personnes étaient en garde à vue dans la capitale. Au moins 58 personnes sont mortes noyées en tentant de rejoindre l'Espagne. Environ 150 exilés s'étaient entassés dans un bateau qui a fait naufrage au large de la Mauritanie. Le bateau était parti de Gambie. Ce trajet a été une voie de passage importante pour les migrants jusqu'à ce que les autorités espagnoles ne renforcent les patrouilles en mer au milieu des années 2000. Retour sur les circonstances de ce drame avec Omar Waman.
Au moins 150 personnes avaient pris place dans cette pirogue de pêcheurs pour tenter de rejoindre les îles Canaries situées à plus de 1500 km. Florence Kim, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations en Afrique de l'Ouest.
Apparemment, ils n'avaient plus d'essence. Ils se sont rapprochés des côtes mauritaniennes pour pouvoir faire le plein et auraient heurté un rocher. Et c'est là que le bateau a chaviré.
Et les conditions de navigation étaient extrêmes. Une forte houle et un froid glacial.
Quasiment une semaine en mer. Ils n'avaient plus non plus de nourriture et c'est pour ça qu'ils souhaitaient profiter de cette escale en Mauritanie pour pouvoir acheter de quoi manger jusqu'aux îles Canaries.
Le naufrage s'est produit à une vingtaine de kilomètres du rivage que les rescapés ont pu regagner à la nage, des survivants sous le choc.
Choqués, affamés, épuisés, imaginez-vous, ils ont été portés par les vagues ou ils ont nagé jusqu'aux côtes mauritaniennes. Donc notre priorité à tous, c'est vraiment de leur apporter un soutien psychologique immédiat.
Les 58 victimes, dont au moins 8 femmes et un enfant, ont été enterrées en Mauritanie peu après le drame, sans être identifiées. Elles sont majoritairement jeunes, entre 20 et 30 ans, et originaires de Gambie et du Sénégal.
Ils auraient utilisé les Alpes françaises comme base arrière pour préparer des assassinats dans toute l'Europe. Le journal Le Monde révèle la traque menée par les services de contre-espionnage français, suisse et britannique pour identifier 15 espions russes, des agents des services secrets russes qui appréciaient les régions alpines et notamment la Haute-Savoie. La chasse aux espions avait été lancée au printemps 2018 après la tentative d'assassinat contre l'ancien espion russe Sergei Skripal à Salisbury en Angleterre. Et les traces laissées par ces agents russes en Europe n'ont pas été trop difficiles à suivre ou à retrouver, Eric Biegala.
Oui, Aurélie, indépendamment des services de police ou de contre-espionnage, plusieurs enquêtes journalistiques qui avaient déjà réussi à identifier les auteurs de l'attaque contre Sergei Skripal, ainsi qu'une bonne dizaine d'autres agents russes opérant en Europe sous pseudonyme. Le collectif Bellingcat, notamment, en partenariat avec The Insider en Russie, avec la BBC en Angleterre ou le groupe suisse Tamedia, a identifié l'un des plus hauts gradés de l'équipe russe, le général une étoile Denis Sergeev, alias Sergei Fedotov. C'est sous ce dernier pseudonyme qu'il aurait piloté l'opération contre Skripal en Angleterre, mais aussi une tentative d'assassinat contre un fabricant d'armes en Bulgarie 3 ans plus tôt, et toujours sous le même nom d'emprunt. Bellingcat a eu accès aux métadonnées du même portable, utilisé pendant plus de 2 ans en Europe par CRGF. Autre imprudence manifeste pour qui veut rester en clandestinité. Résultat, on peut le suivre à la trace, en Haute-Savoie française, à Thonon-les-Bains, à la station des Gets, à Chamonix, mais aussi et surtout énormément en Suisse, Lausanne et Genève particulièrement. Quand il était dans la région, Sergueïev descendait toujours dans le même petit hôtel à Gaillard, près d'Annemasse, et surtout à 3 minutes du centre-ville de Genève. Les auteurs présumés de la tentative d'assassinat contre Skripal seront repérés à Genève également le 2 novembre 2017 avec Sergueïev, Genève où ils venaient d'arriver, directement de Moscou, avec les mêmes faux papiers qu'ils utiliseront 4 mois plus tard en Angleterre. Là encore, pour des pros de l'action clandestine, c'est un peu léger. Quant à l'équipe chargée de pirater les ordinateurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, également passée par la Suisse et la Savoie, et arrêtée en flagrant délit par la police néerlandaise à La Haye, ils avaient encore sur eux la note de taxi prise pour aller de leur lieu de travail jusqu'à l'aéroport de Moscou. L'adresse de la prise en charge, eh bien, elle figure en toutes lettres sur la note de taxi, ce 76 bis de la chaussée Korocheskoye, c'est-à-dire l'adresse exacte du directorat des services de renseignement russes.
Eric Biegala, le temps sera souvent gris demain mais calme sur l'ensemble du pays. Au lever du jour, il fera de moins 5 à plus 10 degrés du nord au sud. L'après-midi, 3 à 8 degrés sur la moitié nord, 8 à 16 sur le sud, jusqu'à 18 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun. Je vous retrouve sur un point sur l'actualité à 19h.